et tout cet enseignement. Et donc, le verset que nous allons lire maintenant, c'est le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, la dernière fois, bon, comme cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'étude biblique, donc je vous rappelle que c'était parce que le Seigneur Jésus leur dit, ne vous troublez point, parce que vous allez voir des choses qui vont aller à l'encontre de ce que vous attendez. Il faut bien se mettre dans le contexte et surtout dans la situation. Il y a, comment dire, ce sont des juifs, les disciples sont juifs, ils attendent le Messie, ils attendaient le Messie est là, ils l'ont vu, ils ont compris qu'il est le Messie, ils en ont eu la confirmation, leur cœur s'est réjoui de croire dans le Messie, d'attendre le Messie et de le voir de leurs propres yeux. Et puis brusquement, il va y arriver des événements qui vont tout remettre en question. Et quand le Seigneur Jésus a prononcé ce discours, eh bien c'est dans la nuit de son arrestation. Alors il est probable que ce repas a commencé beaucoup plus tôt qu'on le pense, hein, parce que pour faire tous ces chapitres, tous ces discours, il a fallu beaucoup plus de temps que simplement une soirée. Donc je pense qu'ils ont dû commencer dans l'après-midi et les choses se sont poursuivies. Et le Seigneur Jésus a probablement été arrêté tard dans la nuit, probablement vers 11h du soir, 23h, 24h. Il a été rapidement jugé, il a passé devant plusieurs tribunaux, trois tribunaux, et puis finalement il a été crucifié à 9h du matin, le lendemain matin. Donc tout ça, les événements sont très précipités, mais tout ça c'est le contexte de ce que nous lisons. Et donc quand le Seigneur Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi », c'est-à-dire croyez en Dieu malgré les apparences. Malgré les apparences. Tout semble dire que Dieu a perdu. Tout est remis en question. Tout est sens dessus dessous. Il n'y a plus. C'est comme si vous aviez perdu le nord. Hein? C'est une expression. On a perdu le nord. C'est-à-dire qu'on est, une autre expression, déboussolé. On ne sait plus du tout dans quelle direction se tourner. Parce qu'ils avaient des certitudes, des points fixes, des repères dans leur vie. Et le Seigneur Jésus-Christ était leur principal repère. Et brusquement, tout est remis en question. Ce qu'il y a, c'est que leur repère était exact dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais leur interprétation demandait à voir des éclaircissements. C'est-à-dire qu'ils attendaient un Messie qui allait régner. Un Messie qui allait résoudre le problème romain, qui allait remettre le trône de David en activité, qui allait tout relancer, et toutes les promesses, tout ce qui était dans l'Ancien Testament allait se retrouver d'actualité. Ils allaient se retrouver comme à l'époque du roi David, vainqueur sur toutes les nations, étendre le règne, et puis, les rêves ne s'arrêtaient pas. Et puis, le Seigneur Jésus leur dit, c'est désolé, mais vos rêves ne sont pas la réalité. La réalité, c'est que le Messie doit souffrir. Parce que vous faites des projets à court terme. Vous avez des projets matériels, des projets politiques, des projets sociaux, des projets d'histoire. Mais Dieu a des projets spirituels. Il a des projets qui concernent l'humanité tout entière. Et les disciples, si éclairés soient-ils, n'étaient pas capables de comprendre ces choses. Quand vous prenez les actes des apôtres, ce même Pierre que nous rencontrons là, quand il s'agissait d'aller prêcher chez Corneille, eh bien, il a dû voir une nappe qui descendait du ciel avec des animaux impurs et il lui dit « Tu es mange !»« Ah non, 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 jamais, 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 jamais !» Les préjugés. Ah ben, ils étaient observateurs de la loi, attention. C'est Moïse qui avait donné la loi. Mais si Dieu a déclaré une chose pure, comment l'homme va-t-il dire qu'elle est impure? Alors tout allait être remis en question. Les choses qui étaient des certitudes absolues, eh bien il va falloir les réviser et aller contre des choses que l'on a cru vraies jusqu'à maintenant et qui se sont avérées être non pas fausses, mais temporaires. Et avec le temps, eh bien, elles ont cessé, leur actualité a cessé. On est passé à autre chose, autre dispensation, autre règle. C'est et même hein, pour ceux qui ces viandes impures et pures, Paul va jusqu'à dire mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. C'est vous vous posez des questions sur vous même pas citer les choses. Hein. C'est ne vous en citez plus, ne vous en posez plus. C'est le Seigneur Jésus a inauguré une nouvelle dispensation. Et dans cette nouvelle dispensation, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses anciennes, eh bien, pour ses disciples, étaient des choses très importantes. Ils y étaient attachés farouchement. Ils étaient prêts à donner leur vie pour une tranche de saucisson. Hein. C'est si jamais on l'avait mis sur la table, ils seraient morts pour ne pas la manger. Et ils seraient peut-être même pas rentrés dans une maison où ils auraient soupçonné qu'elle y soit. Donc c'était à ce point-là. Rentrer chez un païen, ça ne se faisait pas. C'était impensable. Et le Seigneur Jésus leur dit, vous n'avez pas fini d'être choqués. Mais le point fixe, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il leur a dit des paroles. Il leur a dit des paroles certaines. Il y a tout un enseignement qui se trouve dans les évangiles. Là, ces derniers chapitres, c'est la fin de cet enseignement. Mais il y a toutes sortes d'enseignements qui précèdent et je vous encourage beaucoup à les lire, à les méditer, à les approfondir. Parce que c'est des règles non seulement de vie, mais c'est de vie chrétienne et de proximité de Dieu, de communion avec Dieu. Quand on les suit avec précision, eh bien, on ne perd pas son temps. Au contraire, on est en marche pour une vie qui glorifie Dieu et qui est à la lumière que Dieu nous a donnée. C'est très important de croyez en Dieu, croyez en moi. Malgré les circonstances, malgré quand tout semble dire le contraire, malgré que tout s'effondre autour de vous, il y a Dieu. C'est quand nous regardons autour de nous les circonstances, on les voit autour de nous. Si vous regardez bien autour de vous, vous verrez les circonstances. Vous verrez des situations. Vous avez même ce monde qui semble triompher. Quand vous regardez bien, vous dites, mais quand même, ils sont du bon côté des canons, des mitrailleuses, des médias, de la politique, de l'argent. Et je pourrais citer encore le bon côté côté duquel ils sont. Mais ce monde est perdu. Ce monde a perdu. Celui qui a gagné, c'est Christ. Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. Juste avant qu'il donne cet ordre pour aller annoncer l'évangile à toutes les nations, eh bien, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Malgré que le monde s'agite, malgré que le monde persécute, malgré que le monde se retrousse les manches pour faire de plus en plus de mauvaises choses, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a des apparences, ce ne sont que des apparences. Ce Satan n'est jamais plus faible que quand il paraît le plus fort. C'est combien de fois il y a eu des situations où le méchant était une triomphée, il était au plus haut, on pourrait dire au zénith de sa puissance. Eh bien, dans les heures qui ont suivi, il est tombé. Il en sera même de l'Antichrist. Quand l'Antichrist sera au plus haut sommet de sa gloire, quand il régnera sur tout, c'est là que tout s'achève. Il a régné une heure. Une heure. C'est pas beaucoup, hein. Bon, c'est peut-être pas une heure horaire, mais c'est un temps très court. Il va régner si peu. Et on est tenté de dire tout ça. Pour ça, pour si peu. Ce monde s'est agité, le monde a fait des multitudes de choses. Il y a eu des dictateurs, des conquérants, et ils ont passé. Ils ont passé comme un nuage, comme une feuille d'eau, comme une goutte une feuille dans la rivière. Il est passé. Voilà, c'était fini. Et vous n'auriez jamais pu dire, il tombera si vite. Et oui, il est tombé si vite. Parce que le jour où Dieu dit, C'est fini. C'est fini. Dieu peut arrêter. Il peut arrêter les choses qui sont en marche et qui semblent les plus indestructibles possibles. Je me rappelle, vous avez tous entendu parler du Titanic, hein, et cette phrase qui est dit, même Dieu ne pourrait pas le couler. Ah là là, même Dieu, dans la même nuit, il a coulé. Il a coulé. Il n'a pas fait un voyage de retour. Il a fait un voyage aller, même pas terminé. Il a coulé. C'est indestructible, même Dieu. Aïe, 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 il ne faut pas provoquer Dieu comme ça quand même. Ce sont des insensés. Insensés. Les gens se glorifient de leur force, se glorifient de leur sagesse, de leur puissance, de leur autorité, de tout ce qu'ils ont. Et ils méprisent l'Église. L'Église de Dieu est, on la regarde comme peu de choses. Nous sommes insignifiants. Mais néanmoins, avec le plus petit, eh bien, Dieu est capable de faire beaucoup plus qu'avec des multitudes. Je me rappelle de. Maintenant, je n'ai plus la situation tout à fait en tête, hein, mais il y avait John Knox qui priait et la reine d'Angleterre qui disait : Je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées qui. Je ne sais plus quel roi qui était contre elle, hein, mais je pense que c'est le roi d'Espagne. Mais elle disait quelque chose comme ça, c'est les prières d'un seul homme, un seul homme de Dieu, qui était capable de faire bouger les circonstances, changer les temps, les circonstances. On pourrait raconter des histoires de réveil, des histoires d'hommes et de femmes de prière, qui ont lutté dans la prière, qui ont été exaucés, non pas dans l'Ancien Testament, mais dans des époques très contemporaines, dans des situations historiques qui nous sont proches. Dieu est intervenu, Dieu a changé les choses. Je me rappelle de. J'ai rencontré Frère André et c'était un ami à moi, voilà, pour vous dire les choses carrément. On a parlé longuement ensemble et bon. Et un jour il m'a dit, tu sais, je me rappelle, dans ma coccinelle, j'avais des Bibles, un chargement de Bibles. Et c'était la Tchécoslovaquie se fermait, il y avait eu le printemps de Prague, c'était terminé, les chars soviétiques étaient là, ont envahi Prague et tout ça. Et puis j'ai dit, il faut que j'emporte encore un chargement de Bibles, le dernier. Et il est passé, il est arrivé, et il y avait les chars soviétiques qui étaient sur la route. Et il est passé entre les chars. Personne ne l'a arrêté. Il a fait des centaines de kilomètres comme ça. Avec les chars, ils étaient en quinconce sur la route, à droite, à gauche, et ils passaient comme ça, entre les chars. Et il est arrivé, il a déposé son chargement de Bible, et il est reparti. Qui a mis l'aveuglement? Je me rappelle d'un frère en Christ, il était marocain. Je ne sais, j'ai perdu de vue déjà depuis une bonne vingtaine d'années. Un jour, quelqu'un sonne à ma porte, il avait dormi dans sa voiture, et devant ma porte, il ne voulait pas me déranger. Et alors, j'ai fait rentrer, on a déjeuné ensemble et tout. Et puis, il m'a dit, oui, tu sais, je passe des Bibles dans ma valise et je vais au Maroc et je reviens, je passe des Bibles comme cela, je fais le tour des églises et, eh bien, les douaniers ne voient rien. Ils ouvrent la valise, ils ne voient rien. Pourtant, il y a des Bibles et ils ne les voient pas. Et elles sont en arabe en plus et ils ne les voient pas. Vous savez, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Je vous raconte ces choses-là pour vous mettre en appétit, pour vous dire, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Satan peut s'agiter, peut montrer ses muscles, il peut montrer combien il est grand, combien il est fort, combien il est riche, combien il possède toutes choses. Mais il y a le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toutes choses. Et si Dieu dit non, ça sera non. Personne ne pourra faire dire oui. Si Dieu a dit oui, personne ne pourra dire non. Si Dieu a dit une chose, elle s'accomplira. C'est une chose certaine. C'est sans aucune explication. Dieu n'a pas besoin de se justifier. Il intervient. Il est le Tout-Puissant. Il fait des choses grandes et qui dépassent ce que l'homme peut imaginer ou penser. Même quand Satan s'agite, il a perdu. Et c'est ce verset, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors je vous avais dit la dernière fois, apprenez-le par cœur, mais souvenez-vous surtout de ce qu'il a dit, parce que quand vous êtes dans des circonstances étranges, des situations où vous ne comprenez plus, où il semble que Dieu n'exauce pas, que Dieu n'intervient pas, eh bien peut-être que vous êtes beaucoup plus près de l'exaucement que vous l'imaginez. Croyez en Dieu, croyez en notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous, qui vous a racheté. Parce que c'est en lui seul que se trouve notre victoire. Et puis la victoire finale lui appartient. C'est le règne lui appartient. Il régnera sur ce monde. Il ne régnera pas une heure, il régnera 1000 ans. Il l'a dit, il a promis, et nous l'attendons. Parce qu'il l'a dit. Même si tout semble dire le contraire, même si les moqueurs se moquent, qu'ils continuent à se moquer. Ils ne se moqueront pas tout le temps, parce qu'il y aura un temps où ils rougiront de honte de n'avoir pas pris au sérieux ce que la Bible dit très sérieusement, et de ne pas avoir fait confiance au Dieu Tout-Puissant qui a dit et la chose arrive. Il prononce et les choses s'exécutent. C'est extraordinaire comme notre Dieu est le Tout-Puissant. Quand Satan semblait triompher et Jésus-Christ était sur la croix, et que plus rien ne. Les disciples baissaient la tête, ils se cachaient, Pierre reniait, chacun est parti dans sa direction. Il restait trois femmes et un petit garçon, un jeune homme, au pied de la croix. Tout le reste, c'était des moqueurs, c'était des soldats, tout semblait perdu. Eh bien, tout était gagné. Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus était en train de racheter l'humanité pour ses péchés, qu'il donnait sa vie pour le salut de quiconque croit, de tous ceux qui veulent l'accepter. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Rien ne pouvait être un plus grand triomphe que cela. Alors que Satan semblait avoir vaincu l'humanité, avoir peuplé l'enfer de toutes les âmes qui y allaient sans même se poser de questions, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ était en train de remporter une victoire certaine. Alors que Satan semblait l'avoir blessé, eh bien, il avait la tête écrasée à ce moment-là. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Cette puissance qui s'appelle le monde, cette puissance d'irreligion, de rébellion contre Dieu, cette puissance d'opposition et de persécution contre Dieu et contre ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, ce monde est perdu. Il a perdu. J'ai vaincu le monde. Et ce n'est pas je vaincrai le monde, c'est je l'ai vaincu. Il est vaincu. C'est même, je pense à ce verset, c'est toujours Jean qui le dit, mais c'est dans son épître. Il dit, Jésus-Christ écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il a écrasé la tête de Satan sous ses pieds, mais nous avons aussi la puissance de le faire. Et c'est une promesse que nous avons. Quand nous marchons par la foi, que nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis, c'est un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors Satan semble triompher, il est vaincu. Il dit, et même il y a toutes ces paroles que nous méditerons plus tard, hein. Mais tout cela, c'est notre victoire. C'est la victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est celui qui est en Jésus-Christ est plus que vainqueur par celui qui l'a aimé. Et j'aime bien ce terme de plus que vainqueur. Vous avez des vainqueurs dans l'histoire, hein. Des armées se sont mises en bataille et puis il y a un vaincu, un vainqueur. Mais le vainqueur a été vainqueur de justesse, c'est-à-dire qu'il a failli être vaincu. Ça, c'est l'histoire comme ça. Un concours de circonstances, une malchance, voilà. C'est un bouton de guêtre qui s'est décousu, hein, vous connaissez l'histoire. C'est comme ça qu'il fallait toujours recoudre ses boutons de guêtre. On pouvait perdre une bataille avec un bouton de guêtre. Mais c'est ces vainqueurs qui sont des vaincus, presque vaincus, mais plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'il n'y a aucune L'ennemi n'avait aucune chance. Aucune. On est vainqueur parce qu'on est vainqueur. Et parce qu'on ne pouvait pas être autrement que vainqueur. C'est cela, être plus que vainqueur. Ce n'est pas des presque vainqueurs. C'est j'ai été vainqueur, mais in extremis, hein, j'ai failli perdre. Hein. Non, ce n'est pas cette question-là. Nous sommes vainqueurs parce qu'il est vainqueur. Et il ne peut pas en être autrement. Si nous sommes vaincus, c'est parce que nous avons choisi d'être vaincus. Parce que nous n'avons pas marché par la foi. Parce que nous n'avons pas utilisé les armes de Dieu. Parce que nous avons cherché des ressources ailleurs qu'en Dieu. Nous avons choisi nos propres armes. Ou nous avons parfois eu les armes du monde. Et combien de, je m'appelle d'une personne, je ne vais pas vous dire le nom quand même, parce que ça ne se fait pas. Mais il m'a dit, tu sais, si on s'unit tous, eh bien, toi, tu es tout seul dans ton petit coin, là. Si tu veux dire quelque chose à un ministre, il va te rire au nez. Mais si on est 500 à le dire, ça va être différent. Et si on est 1000, si on est 10 000, on va faire bouger les ministres, hein. Eh bien, tout ça, c'est le monde. On se dit, ah, si nous sommes nombreux. Mais John Knox faisait peur à la reine d'Angleterre, plus que les armées du roi d'Espagne. Un seul homme en met en fuite 10 000. C'est le plus faible, 1 000, mais le plus fort, 10 000. C'est la puissance de Dieu pour celui quiconque croit. Celui qui s'appuie sur Dieu, celui qui regarde à Dieu, celui qui ne regarde pas les circonstances, qui ne se laisse pas influencer par les circonstances, qui ne jette pas l'éponge en disant, bon, vous savez, maintenant, hein, les gens, ils ne croiront pas, regardez, quand on parle, on dirait qu'on parle au mur. Mais avez-vous essayé la prière? Avez-vous essayé le jeûne? Avez-vous essayé de prier avec un frère et une sœur? Je peux vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont changé l'histoire du monde par la prière. 3 femmes ont prié, je ne me rappelle plus pour quel réveil, et elles ont prié jusqu'à ce qu'elles l'obtiennent, je ne sais plus lequel. Dans un autre, c'était 3 hommes. Il semble que 3, c'est un bon chiffre pour le réveil. Mais nous, nous attendons d'être 10 000. Mais 10 000, c'est l'incrédulité. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël sous Gédéon, ils étaient 20 000. 20 000. Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Il faut faire le tri. Et il a fait le tri. Jusqu'au moment où ils sont arrivés, ils étaient 300. Et c'est par ces 300 qu'ils ont eu la victoire sur les Amalécites, qui étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Je me rappelle de cette histoire avec le roi Josaphat. Il y avait la ville, non, c'était pas Josaphat, c'était un roi d'Israël, maintenant je ne me rappelle plus exactement. C'est pas Acab. Mais il y avait l'armée de Samarie, disons, ils étaient enfermés dans la ville, et puis les Syriens étaient.